Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut, bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison de Focus Store, la revue culturelle du magazine Focus Vif en podcast. On est très heureux de vous retrouver. Oh, parce que oui, je ne suis pas seule, à ma côté il y a la Rolls de la crème, du caviar, du journalisme pop qui dépote. Il y a le spécialiste du ciné dont le torse musclé fait la célébrité, Nicolas Clément. Bonjour Nico.
Salut Myriam.
Il y a la reine des pages livres et de toute une cour d'admirateurs en délire, Isaline Parisis.
Bonjour Myriam.
Et enfin il y a celui dont le ramage se rapporte au plumage. Et quel plumage, dommage qu'il n'y a plus d'image. Ah oui, ça rime. C'est Guy Verstraeten, homme à tout faire et qui le fait, ma foi, fort bien.
Merci Myriam.
Avec un nouveau tatouage, Guy.
Absolument. Ça veut dire « I love Justinena ».
D'accord. Là, si on est venu aujourd'hui, c'est pas pour poser du lino ou pour compter nos angles de pied, c'est pour parler des objets culturels dont tout le monde s'est emparé ces derniers temps, à savoir le film « La vie d'Adèle », le livre « Palladium », l'album d'Anna Calvi et la série « Masters of Sex ». Ça y est, c'est parti.
Déjeuner ?
Ouais, un peu.
C'est qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois ?
Avec les cheveux bleus. Non mais après, moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc, c'est que t'es venue chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là, c'est un peu plus dur.
Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi ?
On est bien là.
Et on va commencer avec la vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Que dire qui n'a pas encore été dit sur la Palme d'Or cannoise? On sait tous qu'elle a été librement adaptée d'une BD dont l'auteur n'est pas très contente de ne pas avoir été invitée à la fête. Et c'est d'ailleurs pas la seule à être fâchée. Léa Seydoux et Abdelatif ne partiront probablement pas au ski ensemble cette année. Et les lesbiennes n'ont également pas particulièrement aimé le film qui disent, celles que j'ai entendues, offre un point de vue masculin hétéro sur l'amour entre filles, parce que c'est de ça dont il s'agit, une passion amoureuse et sexuelle entre filles, entre Emma, l'artiste aux cheveux bleus, et Adèle, l'instit au nez qui morve. L'amour au temps du mariage et des manifestations pour tous ces sujets d'un film très long et très beau, ultra réaliste, filmé au plus près des corps, au plus près des sentiments, un sujet banal, sublimé par la caméra de Kechiche et par ses actrices, en particulier la petite Adèle, qui joue vraiment très très juste. Alors moi je suis sortie de la bouleversée, on a tous été le voir le même jour, sauf Guy. Bah je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est aussi ton cas, Nico?
Mon cas de
d'avoir été bouleversé. Vous m'écoutez, c'est mieux, hein.
J'étais assez bouleversé, Myriam, oui. J'ai quand même quelques réserves, mais oui, effectivement, le film est très fort. Et ça tient notamment à ce que tu disais, donc la recherche qu'a fait Kechiche d'être dans une forme de vérité qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais une forme d'authenticité qui est sans doute liée à sa façon de travailler. On en parlait avec Guy après qu'il ait vu le film, justement. C'est cette idée qui tourne énormément, donc c'est un type qui fait 700...
Je crois qu'apparemment, il y a eu 750 heures de rush.
Ouais, ouais, 700 heures de rush pour un film de 3 heures, donc ça peut sembler long, mais par rapport au matériau de base, c'est pas grand-chose, finalement. Et c'est une manière de travailler où il épuise en fait les gens. Il peut aller très loin apparemment sur le tournage. Il peut épuiser aussi les spectateurs. C'était le cas. Enfin, et je pense que c'est le cas de beaucoup de séances en fait où les gens on peut avoir une réaction de rejet par rapport au film.
Et les techniciens
aussi.
Et les techniciens apparemment qui sont.
C'est ça.
Oui,
donc.
Parce qu'on leur fait dépasser leurs heures. Parce qu'on ne sait jamais quand ça se termine un tournage visiblement.
Je pense qu'il est complètement habité par son œuvre et donc forcément ça déborde sur.
En fait, je crois que c'est ça. L'idée c'est de pour lui en fait ça. Sa vision du cinéma, c'est de déborder du cadre pour toucher à quelque chose de plus fort et donc notamment de pousser les acteurs le plus loin possible jusqu'à ce qu'ils lâchent prise par lassitude presque. Mm-hmm. Et donne quelque chose qu'il n'aurait pas donné dans quelque chose de plus préparé.
Mais visiblement, si tu as déjà vu 2-3 Kechiche, ce qui devait être le cas de Léa Seydoux et d'Adèle,
ouais.
Tu sais comment ils fonctionnent. Donc, tu viens pas. Après un film avec Kechiche, tu n'es pas surprise d'avoir été un peu torturée. Enfin, je trouve que cette polémique est vraiment tout à fait idiote.
C'est une drôle de polémique, hein, parce que c'est une polémique qui n'est pas arrivée tout de suite. Enfin, si on se souvient des images de Cannes où ils avaient l'air hyper soudés, et dans les interviews, que ce soit Adèle Exarchopoulos ou Léa Seydoux étaient hyper positives et ne faisaient que jeter des fleurs à Kechiche.
Et le remercier, oui.
Le débat est venu, peut-être comme disait Guy, plutôt des techniciens à la base, et puis Seydoux a un peu embrayé là-dessus sur le fait qu'effectivement les conditions de tournage étaient parfois pas très saines et que Kechiche, étant tellement plongé dans sa vision extrême dans certains cinémas, ne tenait peut-être pas compte d'enjeux plus humains sur le tournage en lui-même. Mais cette polémique, à mon avis, était un peu gonflée de manière superficielle, d'ailleurs est en train de retomber quand même, fameusement, et n'est pas apparue tout de suite, donc ça je trouve c'est un peu étonnant, quoi. Après, bon voilà, on n'était pas sur le plateau non plus.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on peut parler d'Adèle Exarchopoulos? C'est quand même incroyable, cette fille, non?
Moi je la trouve
elle est formidable, elle est vraiment forte. Moi, sincèrement, plus encore que Léa Seydoux, c'est elle qui m'a vraiment le plus marqué dans
et
le
quelle
film.
Manière de faire morver son nez en permanence.
Oui, sa bouche est constamment ouverte comme ça, elle a des cheveux assez fascinants, je trouve qu'elle est très très sensuelle.
Elle a des lèvres hyper pulpeuses comme ça, et il filme effectivement ses lèvres de très près.
Et c'est vraiment une actrice qui est justement pas du tout dans le jeu, quoi. Elle est tellement dans la vie, enfin j'ai rarement vu autant de naturel. Voilà, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la technique de Kechiche.
Quelqu'un a lu la BD ici?
Ouais, moi je l'ai lu, mais après avoir vu le film.
Ouais.
Et c'est vachement intéressant. La BD est assez médiocre, je trouve. Donc.
Ah oui, tu trouves la BD médiocre. Moi, j'avais trouvé encore plus bouleversant que le film.
Mais tu l'avais
lu avant?
Avant, ouais.
Avant de voir le film. Ouais, d'accord. Ouais. Après, moi, je trouve que quand tu mets le truc dans la balance après avoir vu le film, la BD, ça semble un peu léger. Mais ce qui est assez étonnant, par contre, c'est que. Il y a plein d'éléments du film, énormément, et donc là je comprends effectivement que l'auteur soit un peu fâché qu'elle soit écartée un peu de toute l'histoire qui est autour du film. C'est que, il a été repêché tout plein, mais même de détails du bouquin, qu'il a été remis dans le film, mais il en fait autre chose, quoi.
Par contre, ce qui ne se retrouve pas dans le film, c'est toute la thématique sociale des parents d'Adèle qui sont contre cette union, qui ne la comprennent pas.
Dans le livre ou dans le film, tu...
Dans le bouquin, c'est comme ça. Dans le film, c'est super survolé, quoi.
C'est survolé,
on voit juste qu'ils sont un peu à côté de la plaque, mais...
Non, c'est très clair, parce que les uns mangent... Oui, mais tu veux dire...
Oui, il y a une scène où on mange des pâtes chez l'un et des huîtres chez l'autre.
Voilà, c'est très démonstratif.
Une scène quand même où les parents sont au courant et l'autre ou pas du tout.
Oui,
il y a une ellipse, énorme par rapport à ça. C'est parfois ce qui est assez étonnant dans le film, c'est que le film dure 3 heures, donc excessivement long, mais par contre, il y a des trous d'air énormes dans le scénario. C'est-à-dire qu'à un moment, tu passes d'un moment où tu te dis, comment est-ce que ses parents vont réagir au fait qu'elle soit homosexuelle? Et en fait, tu le vois pas du tout. Tu passes directement quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je pense. Il y a des grosses ellipses comme ça dans le film qui sont assez étonnantes. J'ignore comment c'est dans la BD.
Oui, c'est qu'à plein de moments, on a l'impression que le film aurait pu basculer vers un autre film, un peu plus militant, un peu plus sociologique. Voilà, voir comment effectivement ça se passe à l'école, avec les parents. Et ça, c'est vraiment seulement suggéré. Je trouve que, c'est aussi la manière de filmer. Mais ils se concentrent vraiment sur leur histoire, quoi, sur leur fusion. C'est vraiment un film en apnée qui donne peu d'espace et peu de respiration autour de leur relation. Et du coup, je pense à une scène du film, par exemple, qui est très très belle, où ils filment vraiment en gros plan. Enfin, c'est le moment où ils filment le plus en gros plan, je crois. C'est cette scène où elles sont dans un parc, où elles vont s'embrasser pour la première fois. On voit vraiment le grain de la peau, l'épaisseur de l'herbe, l'odeur des derniers rayons du soleil. Et c'est surtout, je trouve, une scène sur les angles de vue, vraiment filmé à hauteur de regard de l'une, de l'autre, avec une vraie distribution du désir physique aussi, une incarnation vraiment filmée du désir, et on sent que c'est vraiment un film qui est très très zoomé là-dessus finalement, et qui, je trouve, en rend encore plus bouleversante la rupture, c'est-à-dire le moment où leurs deux corps ne seront plus ensemble à l'écran, où la caméra prend plus de distance aussi, où on les voit plus isolés en fait dans des scènes... Ouais, elles étaient à deux. Enfin, je pense à ce banc, par exemple, qui est vraiment important dans leur histoire, où elles se sont rencontrées, etc. Et puis, on la revoit, Adèle, sur ce banc, d'un peu plus loin, toute seule. Enfin, je trouve qu'il y a un dézoom là qui est très, très intéressant.
Ouais, je trouve que c'est vraiment ça, le film. Et sa technique, si on peut parler de technique ou de méthode Kechiche. Guy parlait d'ellipse et Isaline, elle parle de zoom. Et c'est vraiment ça, en fait. Ils peuvent se permettre de faire des ellipses de plusieurs mois, puis de faire un zoom sur un moment de vie qui va prendre une demi-heure de film, quoi. Et c'est ça qui est vraiment
manger
très fort,
qui fonctionne. Pendant une heure,
Tout à fait. Mais je trouve qu'en fait, la grande question du film, parce que tu dis que c'est fort centré sur leur relation, en effet, mais la grande question du film, et qui est pas très présente dans la BD justement, parce que la BD c'est plus axé sur la relation lesbienne finalement, et sur la manière dont ça peut être accepté ou pas par le personnage et par son entourage, et ici dans le film par contre, la vraie question, je trouve, c'est est-ce que l'amour peut transcender les différences de milieu dans lesquels on évolue, quoi, un milieu artistique et bobo intello pour l'une.
Tu l'as senti dans le film, toi?
Moi,
pas assez, je trouve, j'étais déçue.
Moi, des fois, trop, enfin, je trouvais que c'était des fois trop appuyé, notamment absolument. Dans les scènes de repas, les deux scènes de repas avec les parents, où d'un côté on mange de la bolo et on dit que c'est important d'avoir un vrai travail, et de l'autre côté on boit du bon vin, on mange des huîtres.
Il y a une autre scène. Voilà, ça existe dans la réalité, ce genre de choses.
Oui, d'accord, mais. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est
un peu une autre scène très significative par rapport à ça, c'est quand elles sont dans le lit un moment toutes les deux, après la soirée justement, où t'as Léa Seydoux qui dit à Adèle ah oui, mais est-ce que t'as pas envie de t'accomplir
ouais,
réellement
c'est
dans
absolument
la vie
magnifique, ouais. Ouais,
c'est,
je trouve.
Mais c'est une scène aussi très appuyée où tu sens vraiment que le nœud du truc est là en fait.
Et pour le coup, c'est vraiment une belle scène, je trouve. Mais c'est
très appuyé aussi. Là, tu comprends vraiment le nœud du film. Entre l'une qui dit mais comment est-ce que tu peux te développer, comment tu peux t'épanouir en étant simplement une institutrice, alors que pour elle, s'épanouir, c'est être dans la création, c'est être dans autre chose, dans un autre niveau, si tu veux. Donc là, il y a vraiment une grosse distorsion entre elles. Et parce qu'Adèle, elle veut simplement être amoureuse et vivre sa vie et avoir des
Une scène très importante du film où on sent vraiment la sortie d'une bulle, quoi, d'un truc. Voilà, tout à coup, il y a une espèce d'exigence narcissique où on veut, elle veut chercher chez l'autre un écho artistique, pouvoir quelque part, qu'elle acquiert un statut, une reconnaissance. Et c'est un moment où on se dit, l'amour ne suffit plus, quoi. Il y a quelque chose là qui est l'ordre d'une condescendance presque qui s'installe entre Emma et Adèle.
S'il suffisait d'aimer, hein. Comme disait Céline Dion, fort à propos. Guy, oui.
Puisque tu me demandais si j'avais aimé le film. Enfin non, tu me l'as pas demandé.
Ah bon, tu as aimé le film, Guy?
Moi, j'ai aimé le film, mais je suis un grand admirateur de Kechiche à la base. Ouais. L'Esquive à la graine et le mulet, c'est vraiment deux de mes films préférés. Et j'ai eu, en sortant de La vie d'Adèle, j'ai eu un peu le même sentiment qu'en sortant de L'écume des jours de Gondry.
Tu peux pas dire ça.
Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu connais les trucs de Gondry, par exemple, dans ses films précédents, t'es moins forcément impressionné par ce qui se passe dans les films suivants, quelque part. Mmh. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti ici, c'est-à-dire que dans L'Esquive et dans La graine et le mulet, tu as également cette espèce de vérité qui est complètement incroyable. C'est quand même plus vrai que la vérité, c'est la manière dont elle joue, que forcément, j'ai pas été impressionné par ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire que, j'avais déjà vu ça plusieurs fois, dans L'Esquive.
T'étais plus surpris, quoi.
J'étais plus surpris. Donc tu restes par rapport à une histoire, et finalement c'est une histoire d'amour quelque part qui est pas
qui est assez banale.
C'est une histoire d'amour finalement banale. Et donc voilà, je trouvais ça un petit peu longuet quand même malgré tout. Et aussi j'avais derrière moi dans le cinéma deux nanas qui n'arrêtaient pas de jacasser pendant tout le film, et notamment pendant les scènes d'amour.
Mais oui, ça
l'air
de gêner plein de gens. Hein.
Ouais, je pense qu'on a tous eu ça en fait.
Et c'est terrifiant parce que t'es dans une scène d'amour lesbienne qui est quasi joué, enfin
documentaire.
Oui, c'est ça. Donc elle se touche, enfin elle se touche réellement. Tu peux pas, elle se lèche réellement. Enfin, je vois pas comment elles font pour le dissimuler.
Mais elles avaient apparemment une sorte de prothèse. Ouais.
C'est ça.
Voilà, mais en tout cas le rendu à l'écran fait que t'as l'impression que c'est quasiment une scène réelle, si tu veux. Et donc quand t'as des gens derrière qui sont comme ça, qui sont gênés par ça, et qui en rient et
qui ont besoin de prendre de la distance comme ça.
Complètement, ça te met dans une drôle de position par rapport à ces scènes-là qui durent très 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 longtemps finalement.
T'as l'impression d'être voyeur, t'es toujours.
Oui, mais ça, t'es cassé dans le moment parce que quelque part c'est un petit peu excitant. Il faut être honnête, je trouve aussi. Moi, je trouve que c'est quand même relativement excitant. Elles sont pas dégueulasses ni l'une ni l'autre. Mais en même temps, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Donc ça te met mal à l'aise parce que donc c'est des scènes qui me mettent assez mal à l'aise. Il y a eu une grosse polémique par rapport à ces scènes à ces scènes là et je trouve qu'en plus quand elles sont perturbées par des gens qui sont mal à l'aise, qui sont gênés et donc qui le font savoir, ça fait quelque chose d'assez bizarre dans un cinéma.
Bon, alors ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'on en parle, on va lui donner une petite cote. Moi, je lui donne 9 sur 10 parce que il y a plusieurs moments où j'étais vraiment bouleversée, et c'est pas du tout dans les moments bouleversants, c'était plutôt dans les moments de fête, tellement que je trouve que Kechiche, c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus grands génies du ciné, donc 9.
Je souscris, je vais mettre 8, mais c'est vrai que c'est un peu le nouveau Maurice Pialat du cinéma français. Et si ce n'était quelques réserves sur le côté un peu appuyé de la dimension un peu sociologique du film, je mettrais 9 aussi, mais 8.
Je vais mettre 8 aussi, avec la petite réserve par rapport à Kechiche. Je sais pas si vous avez vu la Vénus Noire.
Non.
Qui était quand même
il paraît qu'il est pas bon celui-là.
C'est une autre proposition et c'est un petit peu plus pénible en tout cas que ça. Donc moi je mettrais 8 et parce qu'il y a chez lui une vérité qui a chez personne d'autre.
Isaline.
Bon, moi je vais mettre 8 parce que vraiment je suis sortie assez essorée de ce film. Vraiment 3 heures en apnée comme ça, bouleversante émotionnellement. J'ai vraiment vraiment adoré.
Et dans les pages de Focus, notre grand maître à tous, Jean-François Plogger, s'est écrit « Le cinéma d'Abdelatif Kechiche ressemble à un tourbillon entraînant le spectateur en un puissant torrent d'émotions. » on parlait d'essorage, ben voilà, tout est dit. Avec One Breath, le nouvel album de la petite anglaise Anna Calvi, encensé par une critique unanime. Même chez nous, Philippe Cornet est tombé totalement sous le charme de ce disque et ou de son interprète. Et il évoque à son propos une Patti Smith 2.0 en plus charnelle. Bah oui, c'est pas rien. One Breath, c'est 11 morceaux relativement inclassables, un peu rock, un peu baroque, très électrique même quand ils ont débranché. La prise est toujours portée par une voix profonde, saturée, puissante, qui contraste avec ce physique de petit oiseau de la chanteuse. Alors personnellement, et même sur le papier, je trouve ça plutôt intéressant. Je cherche encore le plaisir dans l'écoute du disque, qui, pour une raison que je ne m'explique pas toujours, a plutôt tendance à m'irriter. Est-ce que ça vient de la dissonance? Je ne sais pas. Mais j'imagine que vous avez une autre opinion que la mienne à ce sujet. Guy, toi, les filles qui en ont dans le pantalon, j'imagine que ça t'a plus parlé que moi, je sais pas.
Tu insinues que j'aime les transsexuels?
Exactement.
D'accord. Écoute, j'ai trouvé cet album relativement irritant, mais en même temps intéressant aussi.
Ah oui, alors, on a intéressant... le même avis, c'est bon, suivant.
Pardon?
On a le même avis, toi et moi.
Non, c'est pas ça. C'est... Je trouve qu'elle a une voix un peu... qui peut, moi ça me crispe parfois par moment. Je trouve par contre elle s'en sort un peu mieux dans les moments rock. Il y a des moments rock un peu à la PJ Harvey comme ça qui sont un peu plus dynamiques, un peu mieux réussis, je trouve. Maintenant, voilà, comme dans chaque album, ça n'existe pas un album avec 11 morceaux réussis, ou alors c'est très très rare en tout cas. Donc il faut toujours chercher les 5-6 bons morceaux d'un album et puis le juger par rapport à ça. Donc il y a quelques morceaux qui sont quand même pas mal, il y a des orchestrations qui sont vachement intéressantes et qui sont assez belles en fait finalement. Mais bon, ça voilà, il faut aimer sa voix, il faut aimer son sens, cette espèce de voilà, je sais pas, ce côté un peu Fanny Ardant, Lana Del Rey.
C'est vrai.
Il y a un petit... Non, il faut aimer ça. Moi c'est pas trop ma cam maintenant. Voilà, je considère que c'est pas de la merde en disque, quoi.
Non, ça c'est sûr, mais bon. Ah, je suis étonnée, moi j'étais persuadée que j'allais me ramasser un saut de tomate pourrie à la tronche. Isaline,
bah, tu parles de changement de registre. Moi je trouve que c'est ça qui est éreintant, quoi. C'est vraiment, elle passe du rock à des espèces d'envolées onirico-lyriques, comme ça, voire carrément des parties instrumentales. Alors j'ai eu une interview, elle disait qu'elle avait beaucoup réécouté des morceaux classiques. Alors c'est vrai qu'on est presque dans du Philip Glass ou du Samuel Barber à un moment. Enfin, ça. Moi, ça, je trouve que c'est un côté très très fatigant, très très éreintant. C'est vrai, je l'ai écouté sur un aller-retour en voiture. J'étais très contente d'arriver à ma destination, sérieusement. Et voilà, je sais pas, on sent cette espèce de personnage un peu de belle cruelle, comme ça, avec sa bouche rouge, agressive, revendicatrice, qui s'ouvre démesurément à chaque morceau. Alors, c'est vrai que tu parles de PJ Harvey. Moi, c'est vrai que cette comparaison, ça m'a un peu énervée. Alors, je me suis dit, je vais me réécouter les tout premiers PJ Harvey. Donc, j'ai réécouté Dry et Read of Me. Et voilà, je sais pourquoi j'aime ça, quoi. C'est brut, c'est écorché. Là, je trouve qu'on sent une vraie dissonance, une vraie révolte, une vraie explosion. J'ai l'impression que PJ Harvey, à ce moment-là, elle a besoin de rien d'autre que d'elle-même. Ici, j'ai l'impression quand même qu'Anna Calvi, elle est dans un truc un peu gonflé, un peu baroque, voilà, un peu débordant, comme ça.
Un peu boursouflé
et plus cadré aussi, bizarrement. Et forcément, je trouve l'émotion passe moins, tout simplement. Voilà, dans le registre dépouillé aussi, je préfère vraiment une Scoot Niblette, juste avec sa gratte, voilà, qui a vraiment des trucs à dire et une guitare un peu rageuse comme ça. Ouais, je crois que c'est pas mon truc, quoi, Anna Calvi. Je le réécouterai pas, quoi.
Alors, tu parles de trajet en voiture pénible. Moi, j'avais mis le disque pendant que des amis mangeaient. J'étais contente que cette soirée se termine.
On puisse enfin s'entendre.
Mais oui. Non, mais
j'ai rompu avec ma famille depuis que j'ai mis ce disque.
Non, mais je sais pas. Je crois que tout le monde a passé une mauvaise soirée et ça avait un côté. C'était inhospitalier. Je trouve que Anna Calvi rend le lieu où on l'écoute inhospitalier.
Tu l'as écrit au moins pour lui dire à quel point ton repas s'était mal passé.
Elle devrait le savoir. Et toi, Nico?
Oui, ben non, je suis d'accord aussi. Hein. C'est très crispant. C'est vraiment ça qui ressort. Et je suis d'accord avec Isaline quand elle dit qu'en fait, si on compare effectivement avec du PJ Harvey ou du Scoot Niblett, ici, il y a. En fait, je trouve que ça pète plus haut que son cul. C'est-à-dire que le fait que ce soit surproduit, qu'on foute des avalanches de cordes quand on n'a plus d'idées. Parce qu'en fait, finalement, les morceaux, c'est de la pop très anodine. C'est quelque chose. Moi, je vois pas jouer toute seule en acoustique avec une guitare. Et j'ai envie de dire, si on a envie d'écouter de la pop qui se sifflote, mais sans tout ce machin et tout ça, moi, j'avais envie de écouter de vieux albums de Kate Bush ou de Kim Wilde, mais pas l'album de Anna Calvi.
Bon, bah, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à en dire.
Tu peux refaire ton imitation de Bernard Menez.
C'était jolie poupée. Moi, je sais pas très bien quelle cote lui donner parce que j'ai pas. Ça m'est passé au-dessus de la tête. Donc,
c'est pas mal fait non plus. Hein, mais,
non, c'est ça.
Ouais.
Je pense qu'il y a des gens qui sont très clients.
Il y a quand même des qualités dans ça, le faut.
Tout à fait.
On n'a pas de chance d'être tombé qu'avec. Il y a un consensus ici, mais c'est pas le cas du tout dans la presse. Quoi.
Donc je lui mettrais 5, mais ça pourrait très bien être 7 comme 2. Donc 5.
Oui, 5, pareil.
Je vais mettre 6.
Ah ben moi je mets 4.
Oh
ben, oui.
Bon, c'était l'album One Breath de Anna Calvi.
Un pain, donc.
Quel con. Bon, on passe au bouquin. Et cette semaine, on a lu Palladium, un roman français de Boris Razon. Sérieux candidat au Goncourt, en tout cas le plus étonnant, le plus halluciné des livres en compétition, où la réalité rejoint la fiction, puisque l'auteur, par ailleurs ancien boss du Monde.fr, a lui-même subi ce qu'il raconte dans son bouquin. C'est-à-dire qu'il a vécu emprisonné dans un corps devenu sarcophage, suite à une maladie tellement rare qu'on ne sait pas vraiment lui mettre un nom. Et ce que raconte Palladium, c'est d'abord la descente aux enfers de ce type très bien dans sa vie, qui sombre jour après jour dans un calvaire de plus en plus dégénérescent. Il a d'abord mal un peu, et puis beaucoup, jusqu'à consulter, puis se faire hospitaliser, jusqu'à perdre pied et tomber dans le coma. Le récit ensuite prend des chemins de traverse et explore l'imaginaire de cet homme, ses aventures et les pirateries qu'il mène dans sa tête, entrecoupées d'extraits de son dossier médical. Alors, même si j'ai trouvé l'exercice de style plutôt bien mené, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à avaler cette non-histoire délirante, ce cauchemar sous acide. C'était surtout un cauchemar à lire. Comme avec Johann Svar l'année dernière, j'en veux un petit peu à Razon de m'avoir volé toutes ces heures de ma vie, parce que c'est pas court en plus ce bouquin, en me faisant croire qu'il me racontait quelque chose, alors qu'au final, non, il me racontait rien du tout. J'ai trouvé ça très 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 ennuyeux. Alors Isaline, toi qui, j'imagine, est en train de manger tous les Goncourt potentiels, celui-là, qu'est-ce qu'il vaut déjà? Est-ce qu'il peut gagner?
Bah oui, bah, potentiellement ils peuvent tout gagner. Moi je tous gagner, mais je souhaite fermement que non, parce que effectivement tu parles d'exercice de style. Moi le style j'en ai juste pas vu du tout. Oui. C'est-à-dire, je trouve que Palladium c'est vraiment un livre que j'attendais de lire parce que c'est un premier roman dont effectivement la presse est absolument dithyrambique. Sélection dans le Goncourt, on se dit bon là on va vraiment. En plus il est journaliste, il a été journaliste au Monde pendant longtemps. On se dit bon on va quand même avoir quelque chose. Je trouve au final on a quelque chose. Oui, mais c'est trop. On a trop en fait. C'est vraiment un livre lourd. Boursouflé, hein, comme on disait, vraiment inintéressant. Je trouve une très très longue broderie assez inutile, d'autant plus décevant que les thèmes sont a priori absolument fascinants, c'est-à-dire des thèmes universels. Hein. C'est la peur de la douleur physique, la peur de la perte de conscience, la proximité de la mort. Hein. Comme il le dit, son corps a été le théâtre d'un combat sans merci, et c'est vrai, quelque part. Ça remue quand même une fibre humaine, on a une curiosité, une fascination par rapport à ça. La question, c'est qu'est-ce qu'il en fait littérairement? Et là, quand même, force est de constater qu'il n'en fait rien. Il n'y a pas d'écriture, c'est assez mal écrit, en fait très plat. Hein. C'est une suite de petites phrases sujet-verbe de description. Il y a aussi un problème de ton, je trouve, puisque à plusieurs reprises, tout au long du récit, en fait, son récit s'adresse à un tu, hein, qu'il appelle mon ami,
qu'on ne comprend jamais
pas très bien pourquoi. Et moi, ça m'a carrément mis mal à l'aise un moment. Alors, c'est quand même vraiment dommage, parce qu'effectivement, Boris Razon a peut-être vécu là une expérience limite, absolument fascinante, qu'on connaîtra jamais, terriblement douloureuse. Et le problème, c'est que c'est pas, selon moi, un écrivain. Et il suffit de relire des livres qui parlent du sujet de manière autrement ambitieuse et autrement intéressante. Il y avait notamment Cécile Gilbert, qui est la biographe d'Andy Warhol, qui avait fait un livre absolument magnifique il y a quelques mois qui s'appelait Réanimation, où elle décrivait le coma de son compagnon, et qui était vraiment un projet d'une envergure littéraire, où elle parvenait à faire un récit clinique et doublé d'une magnifique lettre d'amour à son mari. Ce qui donnait du coup un intérêt au livre, et ce qui n'est pas du tout le cas ici, je trouve.
Mais je ne sais pas ce qu'on a, en fait. On va systématiquement à contre-courant de l'unanimité de la presse, parce que là, par rapport à ce livre, tout le monde écrit que ce livre est une vraie bombe, quoi. Et vraiment, moi, je trouve ça un pétard mouillé. Nico,
ouais, moi, je reconnaîtrais quand même deux choses. C'est un certain sens de l'image. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, je ne trouve pas ça démentiel, mais je trouve qu'il a l'art de faire vivre des trucs un peu délirants, pratiquement littéralement sous nos yeux, quoi. C'est des scènes, à la limite, on ne comprend pas, mais on les voit.
Mais toi, t'es partie avec lui dans ces scènes-là, quoi. Parce que moi, je suis vraiment restée à quai tout le temps.
Aussi. J'avais envie qu'elle se termine. Et je préférais, quand il racontait son état de malade et sa douleur, que ses pirateries et ses abordages.
Mais très bien, mais je suis contente.
Disons qu'il exagère, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quand même une force à faire vivre des choses comme ça, qui sont intérieures, finalement, et à les faire vivre pour le lecteur. Ça n'en est pas moins boursouflé et crispant pour autant, mais voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que je pense que c'est sincère aussi. Il dit lui-même dans des interviews qu'il prétend en tout cas avoir une mémoire très développée qui fait qu'il se souvient de toutes les choses qu'il a vécues quand il était dans cet état végétatif à l'hôpital. Alors moi, par contre, ce que ça m'a donné comme impression, c'est d'un type qui est à côté de vous en soirée, qui a pris du LSD et pas vous, quoi.
Oui, c'est ça.
Et donc, en fait, lui, il est dans son trip et vous êtes à quai, comme tu disais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort à la lecture et qui est vraiment épuisant complètement. On parle beaucoup à propos de ce bouquin on fait beaucoup de liens avec des récits mythologiques, et je trouve ça intéressant, en fait, que ce soit l'Odyssée d'Homère ou l'Énéide, l'Iliade, des trucs comme ça. Parce qu'effectivement, c'est un voyage intérieur, c'est quelqu'un qui s'en va. Et qui s'en va très loin, on a l'impression qu'il va jamais revenir, comme Ulysse, quoi, finalement, et qui peut possiblement revenir dans son corps sur la fin. Voilà.
Guy, toi, tu m'envoyais des SMS en me disant que tu n'arrivais pas à terminer le bouquin. Donc...
Ben oui, alors je vais expliquer pourquoi je ne l'ai pas terminé.
Ah, tu ne l'as pas terminé.
Je ne l'ai pas terminé, mais j'ai une raison pour ça, en fait. Non, mais je vais assumer complètement ce que j'ai fait.
On va encore se faire tomber dessus par tous les fans de Rosemont.
C'est pas bien, mais j'ai fait 180 pages. Moi, j'ai trouvé vraiment que la description de ce qu'il ressentait au moment où il se faisait hospitaliser et ses premiers jours à l'hôpital, je trouvais ça vraiment intéressant, même si le style était pas bon. Le style est assez banal, c'est des phrases très courtes, il fait pas de grandes envolées. Et puis j'ai senti le coup arriver, et j'ai vu le truc arriver, je me suis dit ok, il va commencer à raconter, il prend un prétexte maintenant pour en faire un roman et pas une autobiographie médicale. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'il s'envolait dans des voyages et des trucs de pirates, j'ai dit il m'aura pas. Il m'aura pas les 10 heures. Il va pas me prendre ces 10 heures-là de ma vie, en fait. Parce que ça n'en vaut pas le coup.
Ouais, exactement.
Ça n'en vaut pas le coup parce que son style n'est pas éblouissant, ou son style n'est même pas renversant d'une quelconque manière. À savoir... Si tu t'envoles dans des voyages comme ça, et que tu le fais avec un style qui est incroyable, avec plaisir, je viens avec toi. Mais si tu le fais avec le même style banal, en phrases toutes courtes, on est nerveux, etc., très bien, mais pourquoi me prendre avec moi? J'ai pas d'intérêt à aller avec lui dans ces délires qui n'ont pas existé. Parce que tu sais directement, il n'y a pas d'enjeu quelque part, il n'y a aucun enjeu. Tu sais que tu vas aller dans des divagations.
Et tu sais comment ça va se terminer.
Que c'est
aussi
pour revenir finalement dans ce lit d'hôpital et se dire voilà, en fait, tout ça c'était fait. Quoi.
Voilà. Ah oui, donc moi je me suis dit, je vais rester à la centaine de premières pages, donc à 180 pages, que je vais rester là. Je vais apprécier le fait que ça a dû être très douloureux, et que je trouve que sa représentation de ce qu'il a vécu à ce moment-là quand il était malade est assez intéressante et assez poignante, et je vais en rester là. Voilà.
Mais c'est-à-dire que même littérairement, c'est très désindigé, je trouve, parce qu'effectivement, il y a cette succession de voyages aux enfers, de villes secrètes hyper sécurisées, on est presque dans du Orwell à un moment, et puis c'est un récit tribal, une mythologie, effectivement. Alors il meurt à peu près 15 fois dans le livre, à un moment on n'en peut plus du tout. Ouais, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas dans un jeu vidéo, quoi? Il y a un truc un peu. J'avais l'impression presque d'être dans un dictionnaire d'interprétation des rêves que je devais lire intégralement.
C'est vrai.
C'est l'enfer. Et en fait, je trouve que même littérairement, c'est pas du tout abouti, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lignes comme ça qui lancent et qui sont pas du tout exploitées. Et par exemple, cette ligne un peu polardeuse où il dit voilà, je suis dans mon lit, je suis presque mort et j'ai tué quelqu'un, je suis un assassin. On se dit bon, là il va y avoir quelque chose.
Oui.
Et puis voilà, il résout ça en deux lignes, c'est complètement pas consistant. Puis c'est cette histoire d'amour avec cette Caroline. Je trouvais ça vraiment, voilà, ça sonne assez faux, et c'est d'autant plus dommage que c'est quelque chose qu'on sent effectivement très sincère, mais je trouve que voilà, ça, là non plus, ça tient pas. Et cette idée aussi, qu'on en a pas parlé, mais donc il part dans tous ses délires, effectivement, un peu labyrinthique, voilà. Et à certains moments dans le livre, donc on a des extraits du rôle infirmier, c'est-à-dire des fiches techniques. Hein. Donc le 19 juillet, par exemple, on apprend qu'il a des sécrétions sales, hein, c'est très intéressant, ou des notices entières sur ses suivis de pansements, par exemple. Alors on a le glossaire, hein, donc dès que le mot escar apparaît, on a une petite étoile pour expliquer ce que c'est après. On comprend bien l'idée, c'est-à-dire marquer un peu le gap entre la réalité de ce qu'il vit dans son corps et puis tous ses délires, voilà. Mais je trouve que c'est raté. On comprend pas ces termes médicaux. On s'en fout et on les lit pas. Moi, je les passais systématiquement. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi une fausse bonne idée.
Ouais. Bon, ben, je pense que ça va. On en a suffisamment dit sur ce bouquin. Je lui mets 5 pour l'idée, pour le début. Voilà. 5, ouais, 4. C'est pas fondamentalement de la merde. Hein. Donc, non, oui, 5, c'est bien.
C'est pas fondamentalement de la merde, d'accord. Mais oui, 5 aussi. Ouais.
Guy.
Moi, j'ai pas le côté parce que je l'ai pas lu complètement.
D'accord, c'est bien. C'est courageux de ta part.
Moi, je trouve qu'heureusement que Chantal Thomas et Jean-Philippe Toussaint sont toujours en lice pour le Goncourt. Non, moi, je mets 4.
Oui, alors tes pronostics pour le Goncourt?
Oh, je n'ai absolument
pas. Bon, les pas tes pronostics, mais tes préférés.
Bah, Jean-Philippe Toussaint, évidemment.
D'accord. Évidemment. En deux mots, tu nous pitches un bouquin?
Jean-Philippe Toussaint?
Eh oui.
Bah, c'est le quatrième bouquin donc, d'une tétralogie, hein, donc, qui reprend la passion amoureuse du narrateur pour Marie, une femme très insaisissable. En fait, c'est l'histoire d'une rupture d'amour, rupture amoureuse traversée de moments de sexe et d'amour très, 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 très bouleversants. Je trouve que c'est, franchement, en langue française, c'est ce qui s'est fait de plus excitant depuis un moment, et c'est absolument magnifique.
Et ça s'appelle Nu.
Ça s'appelle Nu, ouais, et c'est la trilogie Marie-Madeleine Marguerite de Montalt, donc aux éditions Minuit, mais on peut commencer par n'importe lequel des quatre, en fait, hein, parce qu'il revendique que c'est très, très fluide et très labyrinthique de nouveau, donc on peut commencer par n'importe lequel des quatre. Hein.
D'accord.
The study of sex is the study of the beginning of all life.
Why would a woman fake an orgasm?
To get a man to climax quickly? Usually so the woman can get back to whatever it is she'd rather be doing.
Alors là, on va terminer avec une série, Masters of Sex, dont le titre est beaucoup plus sulfureux que le propos, puisqu'on n'est pas du tout ici dans du porno, mais dans de la science. Oui, madame, oui, monsieur. Masters of Sex raconte les prémices de la sexologie à une époque où le plaisir féminin est considéré comme un mystère. Bon, je me demande si ça a vraiment évolué, mais bon. Et où le plaisir tout court est considéré comme une vague cerise sur le gâteau, mais vraiment pas comme une fin en soi. On est à la fin des années 50. C'est une histoire vraie, avec des personnages ayant réellement existé. William Masters, éminent gynéco américain, et son assistante Virginia Johnson, chanteuse de son précédent état. Une drôle de père, autant lui est autiste et coincé, autant elle est spontanée et ouverte d'esprit. C'est un tandem tout à fait hétérogène qui va mener des recherches controversées absolument passionnantes. 4 épisodes de Masters of Sex ont déjà été diffusés au moment où on enregistre cette émission. J'attends les suivants avec une certaine impatience, surtout pour la reconstitution d'époque et pour l'actrice Lizzie Kaplan, que je trouve tout à fait charmante, tout à fait délicieuse. Nico, est-ce que ça t'a emballé? Ça t'a laissé froid?
Lizzie Kaplan m'emballe beaucoup. La série un peu moins, mais ça reste assez sympathique. Je trouvais ça assez suspect sur le papier, parce que c'est une série en fait qui compile 3 éléments qui cartonne et qu'on a un peu trop vu dans les séries ces dernières années, donc c'est le rétro. Depuis le succès de Mad Men, je veux dire, toutes les séries un peu vintage, 50s, 60s, on en a un peu soupé. Le cul, hein, qui est quand même le sujet du truc et qui se retrouve maintenant, on l'a assez dit, mais dans des séries comme toutes les séries HBO. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette parodie sur internet, It's Not Porn, It's HBO. C'est plus It's Not TV, It's HBO. C'est tellement il y a du sexe dans les séries.
Et le médecin autiste.
Et le troisième, en tout cas, oui, le milieu hospitalier. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, finalement, c'est pas si mal fait que ça, mais ce que tu suggérais, c'est tout à fait juste. En fait, le tandem de personnages montre bien comment fonctionne la série, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur une série d'oppositions. Donc, il y a toujours d'un côté les coincés, de l'autre côté les libérés, il y a d'un côté la tradition, de l'autre côté la modernité. Et ça s'épuise assez vite, je trouve, et ça donne des personnages qui sont soit complètement décontracté, soit mais vraiment complètement nigo. Il y a cette scène où un des personnages vraiment les plus nuls de la série qui s'appelle Ethan, qui est le jeune docteur qui travaille avec Bill Masters. Donc
Il peut se révéler.
Peut-être, je ne sais pas, mais il y a cette scène où il fait l'amour à une fille dans, enfin, il baise même une fille dans la voiture. Et alors, elle lui dit, tu veux le faire par derrière? Et alors, il lui dit, tu veux dire sur la banquette arrière? Alors, elle dit, non, dans mon derrière. Enfin, je veux dire, est-ce que, au secours, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment nigo à ce point-là? Enfin, je veux dire.
Les années 50, oui.
Ah oui, mais les années 50, elles ont beau dos. Non, je crois pas. Non, c'est vraiment... Voilà. Donc, très schématique, quand même, je trouve.
Guy, toi, c'est Lizzie Kaplan qui t'a principalement.
Moi, c'est Lizzie Kaplan. Ouais. Moi, c'est Lizzie. Hein. Lizzie, c'est quand elle.
Bah, tu nous fais son petit CV? Où est-ce qu'on l'a vu?
Bah, Lizzie, pour. En fait, je l'avais. J'ai complètement amoureux d'elle dans une série qui s'appelle Party Down, qui est une série qui a été faite en deux saisons, qui n'a pas fait long feu donc, mais qui était assez géniale, je trouve, une série humoristique, dans laquelle elle jouait une actrice un peu ratée qui était dans une société de catering. Donc il y avait ça, elle a joué dans Cloverfield aussi, ouais, qui était quand même un assez bon film d'épouvante, science-fiction, qui était tourné en caméra à l'épaule. Et puis voilà, moi j'ai vu Lizzie quasi en full frontal dans Masters of Sex, et donc
elle était déjà dans True Blood.
Mais tu m'as dit ça, tu m'as dit que Lizzie était en full frontal dans True Blood, et sincèrement,
tu ne t'en souviens pas?
Non, alors j'aime vraiment pas trop True Blood, je vais pas me refaire toutes les saisons de True Blood, alors à moins que tu me retrouves l'épisode en question. Avec plaisir. Mais
est-ce qu'elle ne sortait pas avec le frère de...
Tout à fait, dans la première saison de True Blood, ouais.
C'était celle qui était très droguée.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Non, mais voilà, je trouve que Lizzie est très bien dans le film, même s'ils lui ont fait une petite coupe un peu Mireille Mathiesque, un peu étonnante. Ça la met pas tellement en valeur.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle change de coupe à peu près à chaque plan. C'est très étrange. Mais de longueur de cheveux, je veux
vraiment,
dire.
Il y a un moment, à mon avis, Lizzie leur dit, là, je suis vraiment trop moche, quoi. Il faut que vous fassiez quelque chose. elle va chez les coiffeuses de la série en disant, faites quelque chose. Oui, mais non, c'est les années 50. Non, faites quelque chose. Je pense qu'il y a de ça. Au-delà de ça, la série en elle-même, je trouve, est assez qualitative. Les dialogues sont pas du tout mal foutus. Effectivement, il y a un côté caricatural que Nicolas a bien mis en valeur. Maintenant, ça reste dans la rentrée des séries.
Ça reste qui s'est plus ou moins fait de mieux, quoi.
Ça reste quand même vachement au-dessus de la moyenne, je pense. Après, à voir comment ça va se développer. Là, on est surtout. Moi, j'ai vu 3 épisodes sur 4.
C'est vraiment le début, quoi. On n'est pas encore.
Voilà. À voir si ça va prendre de l'ampleur. À voir si les enjeux. Parce que c'est vrai que les enjeux sont un peu, pour le moment, sont un petit peu limités. Mmh. Est-ce qu'ils vont réussir à faire leurs expériences dans l'hôpital? Est-ce que voilà, parce qu'ils font des expériences chez des prostituées aussi, vu le manque de cadre et de moyens qu'ils ont, et surtout parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Voilà, après, à voir si ça prend de l'ampleur. Sincèrement, pour le moment, c'est bien, mais sans plus.
Ouais. Isaline, tu vas regarder les suivants, toi?
Mais oui, je suis vraiment justement en train de me demander si je vais consacrer du temps à ça encore ou pas. C'est vrai que le pilote m'a un peu énervée, parce que je me suis dit, mais c'est pas vrai. Vu les moyens, quoi, vu le sujet, comment est-ce qu'on peut tomber dans un tel classicisme, comment on peut exposer les choses comme ça de manière si manichéenne et si caricaturale. Effectivement, le médecin, lui, c'est vraiment la science, la glace, donc il forme le couple le plus frigide qu'on a jamais vu avec sa blonde qu'il essaye de mettre enceinte. Voilà, il est très antipathique, raide comme un bâton. Et puis elle, Virginia, c'est le feu, le sexe latent. Elle est tellement cool qu'elle a limite inventé aux États-Unis le concept de sex friend, quoi, j'ai l'impression.
Oui. Et elle fait des pipes.
Et elle fait des pipes. Et elle a l'air de même aimer ça.
Oui.
Mais je trouve que là, ça m'a un peu énervée. Après, je trouve que c'est quand même une série qui est aidée par son sujet, qui est quand même, c'est ça peut-être que j'attends dans les prochains épisodes. Moi, j'ai toujours bien aimé l'argument des personnages qui ont vraiment existé, donc les médecins qui ont vraiment mené cette...
Et elle était vraiment chanteuse, enquête, quoi.
Voilà. Et puis, je trouve qu'on comprend quand même bien, même si c'est pas spécialement fouillé, mais que le sujet est quand même un peu le sexe, c'était un sujet sulfureux et brûlant à l'époque. Y a des scènes de flashback qui sont par ailleurs assez naïves, je trouve, mais où on comprend en fait que le docteur Masters l'a sans doute consenti à son mariage uniquement pour se monter un peu une respectabilité, une réputation, et pour pouvoir des années après seulement se lancer dans cette étude complètement désapprouvée moralement. L'argument de la norme, hein, qui revient tout le temps, qui est sans doute quelque chose de très important à l'époque par rapport aux homosexuels, etc., qui sont des scènes assez intéressantes. Et puis je trouve que c'est quand même hilarant, c'est vraiment une vision hyper masculine du sexe, hein. C'est une époque où on pense que seules les prostituées savent effectivement procurer du plaisir, hein. Et alors, pour procurer du plaisir aux femmes et les tester, ils mettent quand même au point une espèce d'énorme gode en verre, c'est quand même génial, au secours, quoi.
Avec une caméra.
Et alors ils découvrent tout ébahi qu'une femme peut simuler un orgasme. Enfin, je trouve qu'il y a un côté assez malicieux, en fait. assez bien foutu, voilà, dans cette vision un peu.
Et il y a aussi quand même l'enjeu de savoir s'il va se passer quelque chose entre le docteur et son assistante.
Mais
son
ça, quand tu lis la bio.
Non, ne me dis pas.
Ah, pardon. Un petit mot de...
Franchement, t'as été d'une docilité remarquable.
D'accord,
ce coup-là.
Michael, c'est Michael Sheen qui s'appelle le docteur dans la vraie vie. On l'a vu dans The Queen, non ? N'était-ce pas lui qui jouait le rôle de Tony Blair, dans le film ?
Ah, il lui ressemble. Oui, il lui ressemble. Il lui ressemble.
Mais c'est lui, The Queen. Ouais.
C'est tout à fait lui.
On comprend le choix.
Alors, sur 10, je mettrais 7. Et je paye pour voir. Moi, je vais poursuivre.
Je mettrais 6 et je vais en rester là, je pense.
Ah ouais.
Moi, je mettrais 7, en effet.
Et tu vas continuer ?
Oui.
Oui. Et Zaline ?
Bah, 6, mais je vais en tout cas regarder.
Lizzie, tu sais que moi, Lizzie, je l'accompagnerai jusqu'au bout du monde.
Mais moi, limite. Elle m'a fait un petit quelque chose. Comme Adèle Exarchopoulos. Cette émission va finir par avoir un lesbien.
Lizzie, Adèle, si vous écoutez, on est là.
Et on va terminer cette émission avec le tour de nos coups de cœur, comme à chaque fois. Alors, j'ai le privilège de commencer et j'ai littéralement fondu pour un disque Confection, j'imagine qu'on doit le prononcer à la française, le nouvel album de Sébastien Tellier, dont le single tourne déjà depuis un petit moment. Alors, c'est le seul single potentiel de l'album d'ailleurs, puisque le reste est purement instrumental, donc je vois mal ça passer à la radio. Il y a de grandes envolées lyriques sur Confection qui sonnent un petit peu comme de la musique de porno chic des années 80. Il y a un peu de Richard Clayderman là-dedans, dans le piano. C'est vraiment désuet, évocateur de costumes blancs sur la plage, de boules à facettes qui tournent au ralenti, de plein de trucs tout à fait ringards et très rigolo. Moi, j'ai rigolé en écoutant cet album, et pas parce que c'était ridicule, parce que c'était drôle. Et c'est aussi très très beau. Et ça raconte vraiment vraiment une histoire quand on écoute l'album. Dans l'ordre, il y a vraiment un récit qui se déroule sous nos oreilles. Bref, j'adore. Ça se passe donc Confection et c'est de Sébastien Tellier. Isaline, ton coup de cœur.
Bah moi, ça va être un livre qui s'appelle Intérieur de Thomas Clair. C'est chez l'Arbalète, donc chez Gallimard. Alors Thomas Clair, il est chroniqueur sur France Culture. Il est prof de lettres à Paris 10. Il est surtout écrivain. Et en fait, c'est un homme voilà, qui aime bien être chez lui, Thomas Clair, qui aime bien son confort, qui est assez casanier. Et donc, il a fait ce pari assez fou de décider pendant 3 ans d'entreprendre la description de son appartement, pièce par pièce, objet par objet. Au final, ça fait 500 pages et c'est une véritable fouille archéologique sur 20 mètres carrés, puisqu'on est à Paris quand même. Donc, on est dans un appartement un petit peu un bourgeois, un peu déclassé, et on visite effectivement son hall d'entrée, ses toilettes, les armoires de sa cuisine et leur contenu. Alors, on se dit quelle bonne idée, mais intérieurement, quand même, on pense aussi que c'est sans doute le livre dont on va se lasser après 10 pages. Et en fait, pas du tout. C'est absolument fascinant, c'est passionnant. C'est une suite de démonstrations et de petites théories un peu drôles, un peu philosophiques qu'il élabore à partir de rien. Alors, par exemple, il montre comme ça pendant plusieurs pages combien sa salle de bain est plus authentique qu'un tableau de Klein. Il décrit des moments de grâce domestique ou des moments carrément plus inquiétants, puisqu'on sait combien un intérieur et une maison peuvent aussi être facteurs d'inquiétante étrangeté. Il trouve ses vêtements trop petits, trop grands et son appartement trop petit. Voilà, on pense évidemment aux choses de Pérec, on pense à Chabrol, on pense à la philosophie de l'ameublement d'Edgar Allan Poe, c'est absolument formidable. Une sorte de poésie de la propriété comme ça, et le portrait d'un individu solitaire et drôlatique, un petit bourgeois attaché à ses objets et en même temps un poète qui désire les magnifier.
Drôlatique, donc il y a des gens qui utilisent encore ce mot.
Oui. Moi,
Guy.
Moi, le dernier truc qui m'a vraiment marqué, c'est Rush, que je suis allé voir il y a 2 jours, je pense. Mm-hmm. Et je trouve ça vraiment bien.
C'est donc un film.
C'est donc un film Rush qui se situe dans les années 70, dans le milieu de la Formule 1. Et on y parle de l'opposition qu'il y a eu entre deux pilotes phares de l'époque, qui étaient Niki Lauda et James Hunt. Le premier étant un Autrichien un peu austère, voire très austère. Le second étant un Anglais flamboyant et amateur de femmes et de picoles et de fêtes. Tous deux étant hyper talentueux. Et donc, voilà, c'est Ron Howard qui réalise ça. Donc, Ron Howard à qui on doit notamment
Willow.
Willow.
Je pense, Willow.
Will Osgood. Osgood.
C'est pas Alien ou Noir Jean?
Non, non, Alien, c'est.
C'est Ridley Scott.
Ah ouais, c'est pareil.
Mais j'ai oublié. Allez, le truc avec. Comment s'appelle-t-il cet acteur?
Allez, je Google. Ah, il est chaud.
Avec Russell Crowe.
Russell Crowe, absolument. Willow,
Apollo 13, Da Vinci Code.
Un homme d'exception.
Voilà. Et qui était aussi la voix de la série Arrested Development. Mm.
Tout à fait. Je vois qu'il était dans Happy Days.
Oui, qui était le rouquin dans Happy Days.
Qui était pas Fonzie, mais.
Richie, non?
Voilà. Qui était dans Happy Days, en effet.
Voilà.
Renoir. Tout ça nous écarte un peu de rush par mon inculture patente. Mais voilà, tout ça pour dire que la première heure, je trouve, est un peu pataude, un peu démonstrative et pas hyper réussie. Mais par contre, ensuite, quand on rentre vraiment dans le duel qui s'est passé entre eux, notamment dans le fait que Niki Lauda a été brûlé dans sa voiture pendant un Grand Prix, au moment même où il était en course pour être champion du monde avec James Hunt, à partir de ce moment-là, il y a une accélération et qui m'a laissé assez bouche bée, je dois dire, au cinéma. Et c'était vraiment, vraiment pas mal.
Est-ce qu'on peut aimer si on déteste la formule?
Il paraît.
Je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a du vroom vroom à n'en plus finir et des bruits de cylindres et des machins comme ça. Mais au-delà de ça, l'opposition entre les deux et aussi le retournement entre le côté austère d'un personnage dont tu te désintéresses assez rapidement parce qu'il est justement austère face à l'autre qui est flamboyant. Et puis son retournement à partir du moment où il est brûlé et où tu sens qu'il y a un vrai élan par rapport à lui, une vraie sympathie, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le film. Voilà.
Nico, c'est toi qui vas clôturer tout ça.
Ouais, moi je vais parler d'un groupe français qui s'appelle The Feeling of Love. C'est un groupe messin, donc c'est un groupe qui vient de Metz, ce qui est quand même pas très commun, on va dire.
Précision.
Et qui est signé sur le label parisien Born Bad Records, qui est vraiment sans doute le label le plus excitant en France et le plus testostéroné, si ça se dit, de ces dernières années. C'est de la pop garage, donc ils ont sorti un album cette année qui s'appelle Reward Your Grace, qui est sorti je sais pas au printemps, quelque chose comme ça, qui est une sorte de pop garage à la Black Lips, enfin vraiment la meilleure époque des Black Lips. C'est vraiment une tuerie absolue, pour moi c'est le 10 de l'année déjà. Et je parle de ce groupe pourquoi? Parce qu'ils viennent en concert le 6 décembre à l'atelier 210 à Bruxelles.
Ah ouais.
Et je mise sur le concert vraiment de la fin d'année. Je pense qu'on va être nus, on va se casser des verres sur la tête, on va se battre avec des tessons de bouteille. Donc viens, ça va être bien.
Tu nous rappelles le nom du groupe?
Un beau message en tout cas.
Le groupe s'appelle The Feeling of Love.
Ah oui, donc tout est dit dans.
Voilà.
Dans
donc battez-vous avec des tessons de bouteille, c'est vraiment, je pense, que c'est la nouvelle tendance. Focus.
Bon ben voilà. Eh ben c'est fini les gars, je vais vous rendre votre liberté. On va se retrouver très bientôt. D'ici là, lisez le Focus Vif, hein. Ça passe le temps, c'est pas si mal finalement. C'est en vente en tout cas chaque semaine avec le Vif l'Express. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur iTunes, ça fait du bien nos statistiques. Et si vous n'aimez pas, parlez-en autour de vous. Et si vous aimez aussi d'ailleurs, ça nous fera plaisir. Un gros kiss à vous, salut les gars.
Au revoir Myriam.
Salut Myriam. Et à dire au revoir à nos auditeurs.
Au revoir les auditeurs.